Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, ce serait l'amitié et la charité fraternelle chez Saint-François de Sales. La prochaine fois, a priori, ça devrait être, sauf changement, ça devrait être plutôt sur l'accompagnement spirituel. Je vous dirai peut-être un petit mot sur Marie aussi. On sera pendant le mois de Marie, donc chez Saint-François de Sales toujours. Vous pourrez toujours aussi donner vos suggestions pour l'an prochain. De fait, ce que vous avez dit l'an dernier, ça m'a inspiré ce titre, même si ce n'était pas... Alors, l'amitié et la charité fraternelle chez Saint-François de Sales. Donc, il y aura trois parties, mais d'abord l'introduction. On a surnommé ou qualifié François de Sales comme le docteur de l'amour. C'est le pape Pie IX qui l'a appelé comme ça, le docteur de l'amour. Ça fait référence notamment au traité de l'amour de Dieu qu'a écrit Saint-François de Sales. Mais peut-être savez-vous pas que François de Sales désirait aussi écrire un traité de l'amour du prochain. Bon, il est mort quand même relativement jeune, si mes souvenirs sont bons, il est mort à 55 ans. Fait belle lurette que je serais mort, si j'avais... Mais voilà, alors je vous lis une petite citation de François de Sales, qui reprend Saint Jean. Hein. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne vont point l'un sans l'autre, et à mesure que nous aimons plus Dieu, nous aimons plus le prochain. Aimez-vous parfaitement Dieu ? Vous aimez parfaitement le prochain. Aussi, la principale marque que je vous donne pour connaître si vous aimez bien Dieu est que vous aimerez bien le prochain. Car nul ne peut dire en vérité qu'il aime Dieu s'il est son frère. Mais de quel amour ? De l'amour dont Dieu même vous aime, car il faut aller puiser cet amour dans le sein du Père éternel, afin qu'il soit tel qu'il doit être. Alors, une petite citation, je ne sais pas si elle vous parlera. Bon, ça suppose que vous fassiez oraison, ce dont je ne doute pas une seconde, bien sûr, mais pour faire le lien toujours entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si au sortir de l'oraison, vous avez un visage renfrogné, c'est que vous n'avez pas fait l'oraison que vous deviez faire. Bon, ça... Alors, Saint-François de Sales insiste beaucoup sur l'amour. Et donc, ce n'est pas d'abord un théoricien de l'amitié. C'est d'abord quelqu'un qui a vécu des relations d'amitié assez intenses. Alors, voilà ce qu'il disait à un de ses amis, Antoine Favre. L'amitié est le sentiment le plus exquis de tous. Et à Sainte-Jeanne de Chantal, il n'y a point d'âme au monde, comme je pense, qui chérisse plus cordialement, tendrement et, pour le dire à la bonne foi, plus amoureusement que moi. Car il a plu à Dieu de faire mon cœur ainsi. Voilà. Alors c'est un sujet qui tient très à cœur à François de Sales. Alors il y a un auteur qui a écrit un livre, Saint-François de Sales et ses amitiés, et voilà ce qu'il dit. L'atmosphère de sa sainteté, ce fut l'amitié. On pourrait l'appeler plus spécialement que tout autre le saint de l'amitié. De même que son ami saint Vincent de Paul fut le saint de l'aumône, ou sainte Thérèse la sainte de l'oraison. Mais lui donc, c'est le saint de l'amitié, saint François de Sales. Ça, c'est... Alors, il ne faut pas imaginer que ce soit, vous m'excuserez l'expression, une amitié un peu dégoulinante. Je vous cite encore Saint-François de Sales. J'aime les âmes indépendantes, vigoureuses et qui ne sont point femelles. Car cette si grande tendreté brouille le cœur, l'inquiète et le distrait de l'oraison amoureuse envers Dieu, empêche l'entière résignation et la parfaite mort de l'amour propre. Ce qui n'est point Dieu n'est rien pour nous. Comment se peut-il faire que je sente ces choses, moi qui suis le plus affectif du monde, comme vous savez, ma très chère mère? En vérité, je les sens pourtant, mais ces merveilles, comme j'accommode tout cela ensemble, car il m'est avis que je n'aime rien du tout que Dieu. Alors, ça nous donne un peu c'est pas l'eau de rose l'amitié que propose François de Sales, c'est une amitié exigeante, on va le voir maintenant, donc... C'est vraiment le sein de l'amitié, mais pas une amitié un peu facile. Un autre indice pour dire combien l'amitié est importante pour François de Sales, dans chaque communauté, c'est un peu différent. Et alors, quelqu'un dit que au Carmel, on préfère l'austérité à la visitation que François de Sales a cofondée avec Françoise de Chantal. On préfère la vie fraternelle à l'austérité. Dit d'une autre manière, plutôt que on préfère arriver un quart d'heure plus tard, mais tous ensemble. Ce côté fraternel, communautaire, est vraiment une marque de François de Sales. Ce qui implique derrière, on le verra aussi, beaucoup de une ascèse qui est très différente. C'est pas une ascèse où on se flagelle, etc., celle de François de Sales, mais c'est une ascèse où on apprend à aimer nos voisins. Et on apprend à aimer ceux qui sont à côté de nous. Donc c'est une autre ascèse qui, je pense, enfin c'est vrai. Alors nous, on est marqué par saint François de Sales parce que notre fondateur, le père Lamy, a été oblat de saint François de Sales et du coup père Jean, père André étaient très pétris de saint François de Sales. Hein. On retrouve tout ce qu'ils ont pu nous enseigner aussi, mais ils avaient puisé à François de Sales avant. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction pour dire simplement que cette amitié était très, très importante pour François de Sales. Donc, le sujet d'aujourd'hui est vraiment un sujet important. Alors donc, je vais prendre trois parties. La première, c'est distinguer la véritable amitié de ses contrefaçons. Et vous avez six chapitres dans l'introduction à la vie dévote qui traitent de l'amitié. Et Moi, je vous le dirai assez vite, non, un peu plus loin. En tout cas, donc, l'amitié et ses contrefaçons, ça serait la première partie. Une deuxième partie, c'est quelques vertus à développer pour cultiver la vie fraternelle ou la vie familiale, on pourrait dire aussi, quelques vertus à cultiver. Et troisième partie, quelques difficultés à surmonter pour aimer les autres, parce que ça ne va pas toujours de soi. Peut-être pour vous, mais pas pour nous. Voilà, alors ça sera les trois grandes parties. La première, donc, distinguer la véritable amitié de ses contrefaçons. Saint François de Sales insiste beaucoup là-dessus parce que, à la fois, s'il est très affectif, comme il le dit, mais en même temps, on sent que quelquefois, c'est compliqué d'avoir notre affectivité. On a un peu, quelquefois, du mal à avoir la bonne note. Soit on est un mur de prison, ça dépend des tempéraments, hein. Soit on est très chaleureux, mais quitte à l'être un peu trop. Donc, c'est difficile avec notre affectivité, quelquefois, d'avoir la bonne note. Et François de Sales nous aide aussi à mettre un peu à voir un petit peu ce qui est avoir une vraie amitié. Alors, avant d'entrer dans les diverses formes d'amitié, d'abord les trois conditions pour qu'un amour soit une amitié. Alors, je prends des choses assez classiques. Hein. Vous savez, pour Aristote, l'amitié, c'est un amour réciproque. Alors, de ce point de vue-là, l'amour conjugal, c'est une amitié. C'est une amitié la plus forte qui soit, a priori, parce que c'est quelque chose de réciproque. Vous pouvez aimer beaucoup quelqu'un, mais s'il n'y a pas la réciproque, ce n'est pas une amitié. Alors, il y a cet amour mutuel. Alors, c'est pour ça que François de Sales parle aussi de l'amour entre frères. Il insiste aux frères ou entre sœurs, hein, mais... Je vous le cite. Il n'y a point de plus vraie amitié ni de plus forte que celle qui est entre les frères. C'est pourquoi les anciens chrétiens de la primitive Église s'appelaient tous frères. Et cette première ferveur s'étant refroidie entre le commun des chrétiens, l'on a institué des religions, des communautés religieuses, dans lesquelles on a ordonné que les religieux s'appelleraient tous frères et sœurs, pour marque de la sincère et vraie amitié cordiale qu'ils se portent ou qu'ils doivent se porter. Voilà. Et alors, donc, le fait que ça soit un amour mutuel, c'est une première caractéristique de l'amitié. Deuxième caractéristique, c'est que les deux personnes sachent qu'elles s'aiment. Il y a quelque chose d'explicite. Je vous cite encore François de Sales, donc c'est dans l'introduction à la vie dévote, la partie, troisième partie, là, je vois qu'il y en a une là-bas, et le chapitre 17. Du chapitre 17 au 22, vous avez les. Il ne suffit pas encore qu'ils soient mutuels, mais il faut de plus que ceux qui s'aiment connaissent leur mutuelle affection. Autrement, ils auraient de l'amour, mais non de l'amitié. Et alors, troisième chose, et qui est très intéressante, la troisième chose, il faut qu'il y ait entre elles une communication, un échange de biens. Et du coup, la qualité de l'amitié, ça dépendra des biens qu'on se communique. Je vous cite encore François de Sales, toujours dans ce chapitre 17 de la troisième partie. Selon la diversité des communications, l'amitié est aussi diverse, et les communications sont différentes selon la différence des biens qu'on se communique. Si ce sont des biens faux et vains, l'amitié est fausse et vaine. Si ce sont de vrais biens, l'amitié est vraie. Et plus les biens sont excellents, plus aussi l'amitié est excellente. L'amitié fondée sur la communication des biens faux et vicieux est toute fausse et mauvaise. Donc ça, les trois caractéristiques qu'il donne, c'est que ça soit mutuel, que ça soit explicite et qu'il y ait un échange de biens. Alors, du coup, après, c'est intéressant de voir quels sont les biens qu'on communique. Alors là, donc, c'est là-dessus qu'il y a, je vais retenir trois formes, trois types d'amitié. Une qu'il appelle l'amitié vaine ou mondaine. Une autre amitié qui est une amitié de devoir. Alors, mais vous verrez, je vais pratiquement pas en parler. Et puis une troisième amitié qui est l'amitié choisie, qui est vraie ou sainte. La première, donc, l'amitié vaine ou mondaine, dans les trois formes d'amitié, c'est une amitié qui est fondée sur la satisfaction des sens ou l'intérêt des liens temporels ou la vanité. Je vous cite François de Sales, c'est toujours au chapitre 17. L'amitié qui est fondée sur la communication des biens extérieurs et sensibles est toute grossière et indigne du nom d'amitié, comme aussi celle qui est fondée sur certaines vertus vaines et frivoles qui n'ont également pour but que la satisfaction des sens. J'appelle biens extérieurs et sensibles ceux qui s'attachent immédiatement et principalement aux sens extérieurs, comme le plaisir de voir la beauté, d'entendre une douce voix, d'entretenir une agréable conversation. Entendez parler la plupart des filles, des femmes et des jeunes gens. Ils ne se gêneront pas pour vous dire « Monsieur un tel a beaucoup de mérite, c'est un homme parfait, il danse à ravir, il possède à merveille toutes sortes de jeux, il est toujours habillé dans le meilleur goût, il chante admirablement bien, tout ça. » Donc, ça, pour François de Sales, c'est une amitié vaine, hein, si c'est juste pour ça qu'on aime quelqu'un. Ou, comme tout cela regarde les sens, ces amitiés qui en proviennent s'appellent sensuelles, vaines et frivoles, et méritent plutôt le nom de folâtrerie que d'amitié. C'est clair, hein? Alors, folâtrerie, on reviendra un petit peu plus loin là-dessus, parce que pour François de Sales, une amitié, elle ne doit pas nous détourner de Dieu. Et là, donc, on folâtre, on s'amuse quelque part, mais on se déconcentre du vraiment vrai but de notre vie, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il l'appelle vaine. Alors, dans cette catégorie, il insiste à la vigilance dans la relation entre les hommes et les femmes. Alors aujourd'hui, peut-être entre les hommes entre eux et les femmes entre elles, on ne sait plus très bien où on en est, mais en tout cas, à son époque, c'est plutôt... voilà, je vous le cite. Je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'il y en a des pages, hein, mais... Quand ces amitiés vaines et badines se rencontrent, entre des personnes de différents sexes, sans aucune vue du mariage, elles ne méritent pas le nom ni d'amitié ni d'amour, à cause de leur incroyable vanité et de leurs grandes imperfections. Et l'on ne peut les nommer autrement que sensuelles, ainsi que je l'ai dit dans le chapitre précédent. Cependant, les cœurs de ces personnes s'y trouvent pris, engagés et comme enchaînés par de vaines et folles affections qui ne se fondaient que sur ces frivoles communications et misérables agréments dont j'ai parlé. Et bien que ces sortes d'amour dégénèrent ordinairement en voluptés les plus grossières, ce n'est néanmoins la première vue que l'on ait eue. Autrement, tout ce que je viens de dire serait une impureté déclarée fort criminelle. Il se passera même quelquefois plusieurs années sans que les personnes qui sont frappées de cette folie fassent rien qui soit formellement et directement contraire à la chasteté, ne se repaissant l'esprit et le cœur que de souhaits, de soupirs, d'assiduité, d'enjouement et d'autres semblables vanités et badineries pour parvenir aux fins que chacun s'y propose. Alors, il montre que, voilà, quelquefois dans ce genre d'amitié, on met le doigt dans l'engrenage, on ne s'en rend pas compte, on est complice plus ou moins volontairement, ou voilà. Et puis, au bout d'un moment, on se casse la figure. Alors, il cite Saint Grégoire de Nazianze qui a une belle page, mais je vous laisse, c'est toujours, c'est au chapitre 18, cette fois-ci, de l'introduction à la vie dévote. Alors, un peu plus loin. À ce mauvais jeu qui prend et toujours pris. Le cœur n'est que trop semblable à l'herbe nommée Aproxys, laquelle de loin prend feu aussitôt qu'on le lui présente. Ce feu d'amour est plus actif et plus pénétrant que vous ne pensez. Si vous croyez n'en recevoir qu'une étincelle, vous vous étonnerez d'en avoir tout d'un coup votre cœur embrasé. Donc, Saint François de Sales met en garde justement contre ce type d'amitié qui peut mal terminer. Voilà. Et alors, donc, je parlais des amours folâtres, selon son expression. C'est que même si on n'arrive pas à des choses vraiment répréhensibles, on se disperse. Alors, le symbole des amitiés sensuelles, elles occupent si fort une âme et épuisent tellement ses forces qu'il ne lui en reste plus pour la pratique de la religion. Voilà, c'est une distraction du cœur, un obscurcissement d'esprit, un dégoûtement d'âme, etc. Donc, il n'est pas très tendre pour ce type. Donc, les amitiés vaines, ça c'est le premier type d'amitié. Un deuxième type d'amitié, c'est l'amitié obligée. Alors, là, je n'y arrête pas, mais c'est juste pour mettre en relief la troisième type d'amitié. Les amitiés obligées, en quelque sorte, si on peut les appeler comme ça, c'est les amitiés que la nature et le devoir vous obligent de cultiver. Ce sont les amitiés des parents, des alliés, des bienfaiteurs, des voisins et autres. Donc, pour Géraldine, qui est ma cousine, c'est une amitié obligée. Mais ça peut être aussi, en même temps, une amitié choisie, vraie ou sainte. Voilà. Alors, donc, la troisième, c'est l'amitié choisie, vraie ou sainte. Alors, tout à l'heure, on parlait des biens. Dans une amitié, on se communique des biens et ça qualifie l'amitié si c'est des biens très superficiels ou c'est des biens plus profonds. Et pour François de Sales, le premier but de l'amitié, c'est la vertu. Je vous le cite. C'est au chapitre 19, cette fois-ci. « Oh, Philothée, aimez tout le monde d'un grand amour de charité. » Ça, c'est l'amour pour tout le monde. « Mais n'ayez d'amitié particulière qu'avec ceux qui pourront s'associer à vous pour des choses vertueuses. Et plus les vertus que vous mettrez en commun seront exquises, plus votre amitié sera parfaite. » C'est vraiment une émulation, cette amitié spirituelle, telle que la présente François de Sales tel qu'il l'a vécu, c'est aussi une émulation pour le bien, c'est une émulation pour aimer Dieu. Hein, donc c'est vraiment. Alors, il a des expressions. Hein, ça n'empêche pas l'affection, hein, vous allez voir l'expression qu'il dit. Oh, qu'il fait bon d'aimer sur la terre comme l'on aime dans le ciel et apprendre à s'entrechérir dans ce monde comme nous le ferons éternellement en l'autre. Je ne parle pas ici du simple amour de charité qui doit s'étendre à tous les hommes, mais je parle de l'amitié spirituelle par laquelle deux ou trois âmes, ou un plus grand nombre, se communiquent leur dévotion, leurs affections spirituelles, ne font à elles toutes qu'un seul et même esprit. Voilà, alors ça c'est donc ces amitiés vraies et saintes, c'est pour mieux vivre la vertu et pour mieux aimer Dieu. Ces amitiés aussi, elles sont fondées sur la foi. Ce n'est pas d'abord par un attrait naturel. Alors, il a une belle expression pour parler de cette. Nous verrons ces âmes-là, dans la poitrine du Sauveur. Quelque part, il veut dire que, du coup, on essaie d'aimer les gens comme Jésus les aime. Et comme Jésus a donné sa vie pour eux. Et donc, voilà son expression. Le grand bien et le grand bonheur des âmes qui aspirent à la perfection serait de n'avoir nul désir d'être aimé des créatures, sinon de cet amour de charité qui nous fait affectionner le prochain et chacun en son rang, selon le désir de notre Seigneur. Et dans ce type d'amitié, vraie et sainte, tout est subordonné à l'amour de Dieu. Alors après, il a des images un peu particulières, quelquefois un peu surprenantes, mais quand donc le divin amour règne dans nos cœurs, il est assujetti royalement tous les autres amours de la volonté, et par conséquent, toutes les affections, dit celles, parce que naturellement, elles suivent les amours. Puis il dompte l'amour sensuel, et le réduisant à son obéissance, il tire aussi, après celui, toutes les passions sensuelles. Et il prend l'exemple de Jacob qui a attrapé son frère par le pied. Je vous passe les images pour dire justement, en tout cas, que tout dans ce type d'amitié, tout est subordonné à l'amour de Dieu. Alors, donc, je vous ai parlé un petit peu des trois composantes de l'amitié. Trois conditions, hein, un amour mutuel, explicite et puis un échange de biens. Après, ces trois types d'amitié. Et puis là, je fais attention au dérapage possible. Et il est toujours assez vigilant. Il dit même les amitiés spirituelles peuvent se gâter. Ne voit-on pas que les vignes qui produisent le meilleur vin ont plus besoin d'être émondées et retranchées? Telle est l'amitié même spirituelle. Donc, c'est jamais gagné une fois pour toutes une amitié, même si elle est spirituelle. Et il y a besoin d'une vigilance toujours, et puis parce que... Voilà, il dit ça, c'est au chapitre 20. Il faut donc être sur ses gardes pour n'être point trompé en amitié, car bien souvent Satan donne le change. On commence par l'amitié vertueuse, mais bientôt, si on est prudent, l'amitié frivole s'y mêle, puis l'amitié fausse, puis l'amitié coupable. Oui, même dans l'amitié spirituelle, il y a du danger. Et François de Sales, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un de pessimiste, mais c'est quelqu'un d'assez réaliste. Hein. Je pense qu'il voyait, lui qui était très sensible et tout ça, il voyait qu'il fallait qu'il soit vigilant pour lui-même, je pense, avant de... Alors, toutes ces amitiés, il les a vécues de manière lumineuse, mais il savait bien qu'il fallait qu'il soit vigilant, tout simplement. Et c'est pareil pour nous, hein, on n'est pas mieux. Alors, il fait la différence, justement, entre ces amitiés. Les fausses amitiés se terminent ordinairement par les brouilleries, les injures, les impostures, les tristesses, les jalousies, etc. Quelquefois, ça se termine mal. Mais parce qu'on l'a laissé, voilà, il y a des dérapages qui sont possibles et il faut être attentif. Là, il donne quelques remèdes contre ces dérapages. Alors, quelquefois, ça peut être de s'éloigner de la personne si on voit que c'est un peu compliqué. Ça peut être Il prend l'exemple de saint Augustin, voilà, qui s'est éloigné de Tagaste pour aller à Carthage. Alors, mais qui ne peut s'éloigner? Que doit-il faire? Il doit absolument retrancher toute conversation particulière, toute assiduité, toute vaine démonstration. Et là, on voit que le doux saint François de Sales, il est assez tranchant quand même à ce moment-là. Je crie tout haut à quiconque est tombé dans ce piège, taillé, tranché, rompé. Il ne faut pas s'amuser à découdre ces folles amitiés, il faut les déchirer. Il n'en faut pas dénouer les liaisons, il faut les rompre ou couper. Car aussi bien les cordons et les liens n'en valent rien. Il ne faut rien ménager à un amour qui est si contraire à l'amour de Dieu. Donc, on voit qu'il est... Et il dit, mais me direz-vous encore, n'est-ce point une ingratitude que de rompre si brusquement une amitié? Non. Allez, donc il est assez... Notre doux saint François de Sales, il est assez clair, là. Alors, une chose amusante, c'est un autre paragraphe, c'est ne prendre chez l'ami que ce qui est bon. Alors, d'une part, pas prendre ses imperfections, et après, pas prendre ses péchés, bien sûr. Alors, pas prendre ses imperfections, des gens. Il le faut certes aimer, nonobstant son imperfection, mais il ne faut ni aimer, ni recevoir son imperfection. Car l'amitié demande la communication du bien et non pas du mal. Et alors, il rapporte Saint Grégoire de Nazianze. Alors, moi, ça a évoqué certaines choses que peut-être moi, maintenant, avec le recul, ça nous paraît vraiment stupide, mais n'empêche que c'est exactement ce que décrit Saint Grégoire de Nazianze. Il assure que plusieurs des amis et des admirateurs de Saint Basile, il y avait une grande amitié entre Saint Grégoire de Nazianze et Saint Basile, hein, une très grande amitié. Mais en même temps, on n'idolâtre pas ses amis, même si c'est... voilà. Alors, des admirateurs de Saint Basile s'étaient laissés porter à l'imiter jusque dans ses imperfections extérieures, son parler lent, son air abstrait et pensif, et même en la forme de sa barbe et en sa démarche. Voilà, on a vu ça dans certaines communautés, on imitait le fondateur. Ben non. On imite que la perfection, mais pas l'imperfection, sinon... voilà. Cela ne doit aucunement se faire. Chacun a bien assez de ses mauvaises inclinations sans se surcharger encore de celles des autres. Donc, à la fois, il invite à un grand, grand amour de ses amis. En même temps, on n'idolâtre pas ses amis. On prend ce qu'ils ont de bon, mais pas ce qu'ils ont de mauvais. Et a fortiori, les péchés. Alors, la vraie et vivante amitié ne peut exister parmi les péchés. Que si c'est un péché passager, l'amitié le met soudain en fuite par une sage correction, la correction fraternelle à ce moment-là. Que si c'est un péché qui séjourne et demeure, tout aussitôt l'amitié périt. Et alors, du coup, on coupe le lien avec la personne. Si est... Donc, on voit François de Sales qui est un ami. C'est vraiment ça, le premier point, c'est pour se communiquer des biens, c'est pas pour se tirer vers le mal, bien entendu. Après, il y a la question des amitiés particulières. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette affaire-là. Non. Alors, dans les communautés, normalement, et François de Sales le dit un peu plus loin, en un monastère bien réglé, le dessein commun de tous tend à la vraie dévotion. Et du coup, normalement, on n'entretient pas des amitiés particulières dans une communauté religieuse. Parce que théoriquement, en tout cas, on est tous là pour aimer Dieu. Et puis pour... Et sinon, après, il dit, voilà, on passe des particularités aux partialités. Après, ça peut créer des clans, des jalousies, tout ça. Donc, il y en a qui luttent beaucoup contre les amitiés particulières. Mais ce qui est beau, c'est que François de Sales est beaucoup plus nuancé. Et il dit, dans une communauté, il faut aimer tous pareil. Et bon, pareil, d'une certaine manière, par rapport à vos enfants, vous ne faites pas de différence vis-à-vis de vos enfants. Il faut qu'il y ait... Mais alors, les amitiés particulières, en revanche, il dit, ça c'est vrai pour les monastères, mais ce n'est pas vrai pour les gens qui vivent dans le monde. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Plusieurs vous diront peut-être qu'il ne faut pas avoir d'amitié particulière parce que cela occupe le cœur, distrait l'esprit et engendre des jalousies. Mais ils se trompent en leurs conseils. Ils ont vu dans les écrits de plusieurs saints auteurs que les amitiés particulières nuisaient extrêmement aux religieux. Et ils ont cru qu'il en était de même pour le reste du monde. Mais il y a bien à dire à cela, car comme dans un monastère bien réglé, tous conspirent au même but, qui est la vraie dévotion, il n'est pas besoin d'y faire d'amitié particulière. Et au contraire, il serait à craindre qu'en cherchant en particulier ce qui est commun, on ne passe à des particularités aux partialités. Mais pour ceux qui vivent parmi les mondains, alors c'est votre cas, pour ceux qui vivent parmi les mondains et qui veulent néanmoins embrasser la vraie et solide vertu, il leur est nécessaire de s'unir les uns aux autres par une sainte et sacrée amitié, afin que par elle, ils puissent s'animer, s'aimer, s'entreporter au bien. Ceux qui vivent en religion n'ont pas besoin d'amitié particulière, mais ceux qui vivent dans le monde en ont besoin pour s'encourager et se secourir les uns les autres parmi tant de mauvais passages qu'il leur faut franchir. La perfection ne consiste pas à ne pas avoir d'amitié, mais à en avoir que de bonnes, de saintes et de sacrées. Alors, il y a un mot sur lequel je vais m'arrêter, ce sera le dernier point de cette grande première partie, c'est cette expression qui est très belle. Alors, ce n'est pas un verbe qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, s'entreporter au bien. Hein, s'entreporter. Alors, c'est un mot qu'on utilise souvent François de Sales, s'entreporter. Alors, ça signifie s'engager, se porter mutuellement au bien. Se porter mutuellement. Oui, alors, il est nécessaire de s'allier les uns aux autres par une sainte amitié, car par le moyen de celle-ci, ils s'animent, ils s'aident, ils s'entreportent au bien. C'est comme on se met en cordée. Et je pense que c'est vraiment important de... On dit, d'une autre manière, on dit un chrétien seul est en danger, c'est la même chose, d'une certaine manière, parce que on a besoin, on n'est pas des héros, hein, donc on a besoin des autres. Alors, ça se traduit de diverses manières, mais saint François de Sales en parle notamment par rapport à l'amitié. Et en particulier, c'est vrai du mariage d'abord. C'est la plus grande et plus fructueuse union du mari et de la femme que celle qui se fait en la sainte dévotion à laquelle ils ne se doivent entreporter l'un l'autre à l'envi. S'entreporter. Alors ça, c'était la première partie. Et c'est la plus longue. Mais il y en a encore deux quand même. Alors, quelques vertus à développer pour cultiver la vie fraternelle. Alors, j'ai pensé à sept vertus. La première vertu, je l'ai appelée bienveillance, mais vous verrez un peu ce que je mets derrière ce mot, parce que François de Sales distingue l'amour de complaisance. L'amour de complaisance, c'est l'amour assez spontané. L'autre nous plaît, et puis voilà, enfin, on se trouve bien avec l'autre, et du coup, on n'a pas besoin de faire des efforts. L'amour de bienveillance, alors c'est la volonté est dans cet amour. Notre Seigneur n'a pas dit « aimez ceux qui sont plus vertueux », mais indifféremment « aimez-vous les uns les autres, ainsi que je vous ai aimé », sans en exclure aucun pour imparfait qu'il soit. Donc cet amour de bienveillance, c'est un amour qui voit le bien de l'autre. Et il prend l'exemple de saint Pierre. Il dit, ben, Jésus a aimé Saint-Pierre. Saint-Pierre fut choisi de notre Seigneur pour être le chef des apôtres, quoiqu'il fût grandement sujet à beaucoup d'imperfections. En sorte qu'à tout propos, il en commettait à tort et à travers, suivant ses passions et propres affections. Et il rajoute quand même entre parenthèses, je dis avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit, car dès lors, je n'en parle pas. Hein. Mais parce que, nonobstant ses défauts, il avait toujours un grand courage et ne s'en étonnait point, notre Seigneur le rendit son successeur et le favorisa par-dessus tous les autres. Donc, Voilà, un amour de bienveillance qui aide l'autre à grandir aussi. Deuxième vertu, la cordialité. Alors, mais me direz-vous, qu'est-ce à dire cordial ? Cela signifie qu'une amitié qui a son fondement dans le cœur. Et donc, c'est un mot qui nous parle bien, je pense, cordialité. Troisièmement, l'humilité. C'est une vertu pour cultiver la vie fraternelle. Et Saint François Sales le dit, ben, déjà, employez bien toutes les occasions qui se présenteront de vous associer doucement aux personnes moins relevées. Pas s'approcher simplement de ceux qui sont gratifiants pour nous, d'une certaine manière, mais ceux aussi qui sont peut-être plus petits ou... Voilà. Et quelques jours avant sa mort, alors, on lui a remis une feuille de papier pour lui demander d'écrire ce qui lui paraissait le plus important. Et alors, il a écrit un seul mot, humilité. Alors, quatrième vertu, la condescendance. Alors, je ne sais pas si pour vous ça apparaît comme une vertu. Hein. Condescendance. De fait, oui, souvent, ça nous apparaît plutôt comme une attitude un peu dédaigneuse, et puis voilà, on regarde l'autre un peu de haut, puis on lui fait comprendre, bon, allez, on est bon. Mais en fait, ce n'était pas le sens du temps de Saint François de Sales. Et il y a quelque chose de très, très exigeant dans la condescendance. Vous allez voir. Une définition, on pourrait dire, la condescendance est une souplesse de notre volonté à suivre la volonté d'autrui. Alors là, c'est autre chose quand même. Hein. C'est suivre la volonté des autres. Suivre la volonté des yeux. Ô Dieu, mes chères sœurs, c'est ici que la Divine Majesté veut nous faire gagner le prix de la soumission. Quand les raisons nous sont cachées, c'est alors que notre volonté répugne, que notre jugement regimbe et que nous ressentons la contradiction. Or, c'est en ces occasions qu'il faut se surmonter et avec une simplicité tout enfantine, se mettre à la besogne sans discours ni raison. Ou dans un autre passage, de s'employer, voire jusqu'à donner sa vie pour le prochain, n'est pas tant se laisser employer au gré des autres, ou pour eux ou par eux. Il faut non seulement nous employer pour son bien et sa consolation, mais nous laisser employer pour lui, par la très sainte obéissance, tout ainsi qu'on le voudra, sans que jamais nous résistions. Cette condescendance de finalement suivre la vie des autres. Alors ça ne veut pas dire s'il est bon, hein, malgré tout. Bien entendu, si c'est quelque chose de mal, on ne va pas le faire, mais pour beaucoup de choses, ça n'a pas forcément passé à droite ou à gauche. Ça n'a pas forcément des conséquences majeures, oui.
Je trouve ça, j'entends très bien le but, François. Je trouve ça parfois difficilement conciliable avec la réalité qui souvent veut que l'on se positionne aussi face à quelqu'un, parce que parfois il n'est pas toujours bon de suivre sans cesse quelqu'un d'autre. Ce que je pense que du coup, le risque, c'est aussi de ne pas se positionner, parfois de ne pas savoir dire où sont nos propres limites, et du coup, peut-être prendre le risque de ne pas toujours être en vérité avec ça.
Ah ben, je pense que François de Sales ne dit pas de ne pas être en vérité, hein, bien sûr, et c'est vrai que ça. C'est important d'avoir toujours l'esprit éveillé. On ne suit pas non plus comme un mouton. Il nous a donné aussi une intelligence. Il ne s'agit pas de suivre forcément comme un mouton. Mais en même temps, je vois bien dans la vie communautaire, sur 10 choses à décider, il y en a 9 qui n'ont pas un enjeu considérable. On peut laisser passer. Il y en a une qui a de l'enjeu à ce moment-là, on tient bon. Mais pour beaucoup de choses, alors c'est important ce que vous dites, parce que par exemple, ça ne veut pas dire ne pas donner son avis. Et c'est bien de donner son avis et de faire valoir son avis, mais après, autre chose est de donner son avis, autre chose est de vouloir le faire passer à tout prix. On sent bien, mais c'est important de donner son avis. C'est pas non plus se laisser vraiment donner son avis, mais être prêt à suivre l'avis des autres. Et on voit bien que dans la vie communautaire ou dans la vie familiale, ça met beaucoup d'huile dans les rouages. Quand chacun tient à son avis mordicus, qui est les deux sont bons peut-être, mais ça devient compliqué. Et là, donc la condescendance dans le sens qu'utilise Saint François de Sales, c'est vraiment une vertu importante. Mais ce n'est pas non plus une soumission aveugle, puis bien sûr. Et je pense que vous avez raison de le souligner. Saint François de Sales, donc, à la fin de sa vie, et c'est une expression qu'on reprend souvent de Saint François de Sales, ne rien demander, ne rien refuser. Et encore une fois, Saint François de Sales savait ce qu'il voulait, mais on le voit, ce qu'il dit là, François de Sales l'a vécu. Et on peut avoir des chemins un peu différents. Vous savez que pour la visitation, l'évêque voulait qu'elle soit... C'était pas concevable que la visitation, normalement, elle était là pour aller visiter les gens. Et du coup, l'évêque, il voyait pas ça du même œil. Il dit non, les femmes, elles sont cloîtrées. Elles vont pas aller visiter les gens. Donc, Saint François de Sales, il a considéré que c'était pas là le cœur de la vocation de la visitation. Voilà que ça n'empêchait pas aux sœurs de se sanctifier, d'être fidèles à leur vocation. Donc, il a dit d'accord à l'évêque. Saint Vincent de Paul a réagi différemment. C'était pas à proprement parler des religieuses comme celles pouvaient sortir. C'est trouver un peu son chemin dans tout ça et d'essayer de discerner là. Alors la prochaine halle spirituelle, ce sera sur l'accompagnement spirituel.
Vous voulez vous dire, mais on peut refuser pour des raisons médicales?
Ah ben bien sûr, il y a des choses. Il ne faut pas toujours dire oui, il ne faut pas toujours dire oui. Bien sûr, il ne faut pas toujours dire oui, mais il faut voir l'importance, ça demande toujours un discernement.
Oui, voilà.
Ça demande toujours un discernement. Et dans notre vie chrétienne, on ne sait pas à l'avance, mais du coup, ça demande toujours un discernement, bien sûr. Mais quand on a déjà fait le chemin intérieur où on est prêt à suivre la vie de l'autre, s'il n'y a pas d'enjeu majeur, après, le dialogue est beaucoup plus paisible aussi. Vous sentez qu'on peut construire beaucoup plus ce dialogue et arriver à une... Mais quand chacun tient mordicus à son avis, c'est compliqué parce qu'on se braque avant d'avoir pu discuter. Donc c'est compliqué. Voilà. En tout cas, cette vertu me paraît assez centrale et très caractéristique de Saint François de Sales. Cinquième vertu, l'affabilité. Affabilité. Alors, c'est des entretiens sur la cordialité. Cet amour cordial doit être accompagné de deux vertus, dont l'une s'appelle affabilité et l'autre bonne conversation. Donc après, je parlerai de la bonne conversation. L'affabilité, alors, François de Sales dit que c'est bien entre deux vices contraires. Hein. C'est donc pas être trop grave, trop sérieux. Alors, je vous le lis, ça sera mieux. La vertu d'affabilité est au milieu de deux vices. Alors, d'un côté, la gravité d'un air trop sérieux, et de l'autre côté, une trop grande mollesse à caresser et dire des paroles fréquentes qui tendent à la flatterie. Alors, l'affabilité, on s'adapte aussi, et il dit un peu plus loin, mais si quelqu'un est malade, ben voilà, il faut aller plutôt dans le sens de la délicatesse et tout ça. Donc, là aussi, il faut trouver un peu son chemin, mais l'affabilité, c'est le contraire de la rigidité, donc... Alors, ça c'était la cinquième vertu en rapide. La sixième vertu, la bonne conversation. La vertu de bonne conversation requiert que l'on contribue à la joie sainte et modérée et que, aux heures de récréation, l'on contribue aux entretiens gracieux et qui peuvent servir de consolation ou de récréation au prochain. en sorte que nous ne lui causions point de l'ennui par nos contenances renfrognées et mélancoliques. Là aussi, la bonne conversation, il dit, c'est entre deux excès, c'est le fait de parler pour rien dire. La bonne conversation, c'est pas parler pour rien dire. Il met plaisanter, babiller toujours. Et l'autre, c'est d'être trop sévère, trop... Alors, il y a des sœurs, justement, qui, en récréation, voulaient parler que de choses sérieuses. Il dit non, la récréation, c'est pas pour les choses sérieuses. La récréation, c'est pour parler... on n'aborde pas les sujets on décide pas... En communauté, on essaie d'y être vigilant. Quelquefois, les frères le rappellent. Non, on est en récréation. On ne parle pas de ça. Mais c'est normal. Hein. Il y a des lieux différents. Il y a des lieux, ce n'est pas le moment de plaisanter. On est en train de... Et puis, il y a des lieux, c'est... Alors, c'est une vertu. Un frère en avait parlé au chapelet un jour. Le trapelli. Après, j'ai dit au frère, tu sais, mais les petites dames, peut-être qu'elles savent pas ce que c'est que le trapelli. mais pourtant, c'est une vertu tellement importante, le trapelli. Oui, c'est vrai. Alors, le trapelli, E-U-T-R-A-P-E-L-I-E. Vous pouvez donner ça comme prénom, peut-être. une définition, en quelque sorte. C'est une manière aimable de se recréer à l'occasion des travers et des petites imperfections humaines dont personne n'est exempt. Alors là, c'est peut-être un peu limitatif parce que le trapelli, c'est la bonne conversation, c'est la même chose. Hein, et il insiste juste parce qu'il y a des sœurs qui disent, mais pendant les coulpes, vous savez ce que c'est que les coulpes ? On s'accuse de ce qu'on a fait de mal. Mais au niveau du fort externe, hein, on ne dit pas ce qui nous habite l'esprit, on dit simplement « je me suis mis en colère », tout le monde l'a vu, mais on en demande pardon. Certaines fois, alors ça nous arrive pendant les coulpes, il y a des choses un peu étranges, étranges, je ne sais pas si c'est le mot, mais et du coup, on rit, mais alors justement, il y a une sœur qui dit « mais est-ce qu'on peut rire pendant les coulpes ?» François Salle, oui, il n'y a pas de mal, vous pouvez rire. Hein. À condition que vous ne tombiez pas dans la moquerie. Ça reste simplement parce que c'est un comique de situation et puis ça vous fait rire. Mais après, veillez à ne pas tomber dans la moquerie. Alors ça, c'est... Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que l'heure tourne, mais ça, c'est la bonne conversation. Et la septième vertu, c'est la simplicité. Et ça, c'est très caractéristique aussi de François de Sales. La simplicité, là aussi, je ne vais pas en parler très longtemps, mais déjà dans ce que j'ai dit jusque-là, vous sentez que François de Sales ne se prend pas la tête. D'ailleurs, il disait à Angélique, la mère Angélique Arnoux, l'abbesse de Port-Royal, « Allez simplement, rondement, franchement, avec la naïveté des enfants. » Mais coupez pas les cheveux en quatre. Ah oui, oh ma fille, je vois vos entortillements dans ces pensées de vanité. Voilà, ça c'est le contraire de la simplicité, les entortillements. Voilà, et pour François de Sales, il invite à être vraiment dans la simplicité. Simplifiez votre jugement, ne faites point tant de réflexions et de répliques, mais allez simplement et avec confiance. Et alors, il dit une chose, c'est toujours dans l'entretien sur la cordialité. Si à l'amour cordial est attachée une vertu qui est comme un appendice de cet amour, laquelle est une confiance toute enfantine. Confiance toute enfantine, c'est la simplicité. Hein. Les enfants, quand ils ont une belle plume ou telle autre chose qu'ils estiment jolie, ne sont pas en repos qu'ils n'aient rencontré tous leurs petits compagnons pour leur montrer leur plume et faire qu'ils aient part à leur joie. Comme aussi, ils veulent qu'ils aient part à leur douleur dès lors qu'ils ont un peu de mal au bout du doigt ou qu'ils ont été piqués d'une abeille. Ils ne cessent de le dire à tous ceux qu'ils rencontrent, afin qu'on les plaigne et que l'on souffle un peu sur leur mal. Je ne veux pas dire qu'il faille être tout à fait comme ses enfants, mais je dis ainsi, cette confiance doit faire que les sœurs ne soient pas si fichent de communiquer leurs petits biens et petites consolations à leurs sœurs, non plus que de ne vouloir que leurs imperfections soient remarquées par elles. C'est une forme de simplicité de dire, ben voilà, il y a telle chose qui m'a fait plaisir, voilà. Et, mais sans se prendre la tête, sans dire, oh, ça risque d'être de l'orgueil, tout ça. Non. Alors après, il y a une mesure, bien sûr. Il y a une mesure où de dire quelque chose qui nous soucie, ben, au contraire, c'est bien. Mais après, on n'est pas obligé de raconter tout en détail. Il y a des choses, bon, ça reste... voilà. Donc il y a une certaine simplicité de François de Sales où, bon, on ne se prend pas trop la tête. Bon, j'arrive à la troisième partie qui sera encore plus courte que la deuxième. Mais il y a quand même sept points dans cette troisième et dernière partie. C'est les difficultés à surmonter pour aimer les autres. La première, alors je serai assez bref, mais la première difficulté, c'est on peut avoir tendance à se conduire selon nos inclinations naturelles. Et François de Sales nous dit non. Si vous voulez vraiment suivre le bon Dieu, mais il faut que vous... Notre vie chrétienne, ce n'est pas la spontanéité enfantine dans le mauvais sens du mot. Il y a des personnes, spontanément, vous n'avez pas envie d'aller les rencontrer. Et c'est simplement parce que leur visage peut-être vous inspire pas ou je sais pas. Après, si vous alliez les rencontrer, peut-être finalement vous trouvez qu'il y a des trésors dans cette personne et que ça aurait été bien dommage de pas rencontrer cette personne. Donc ce premier pas, je pense que nous invite à faire François de Sales, c'est justement pas en rester au premier regard. Parce que au contraire, inversement, il y a des gens, on irait volontiers et puis après... bon, on en revient un petit peu. Hein, donc, voilà, justement, pas en rester aux inclinations naturelles. Et François de Sales insiste beaucoup là-dessus. Deuxième chose, qui s'en rapproche, mais qui a un degré supplémentaire, on pourrait dire, c'est aimer malgré l'antipathie ou les aversions. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà, mais peut-être au premier abord, bon... Mais après, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Les aversions sont certaines inclinations naturelles qui font que nous avons un certain petit contre-cœur à l'abord de ceux envers qui nous les avons. Il y en a à qui la nature a donné de grands avantages. Il est bien facile de s'accommoder avec eux. D'autres n'ont pas ces qualités. Ils ont au contraire je ne sais quoi qui répugne à nos inclinations. Mais l'amour effectif franchit tout cela et quitte ses propres humeurs pour se conformer en tout et partout à celles des autres. Donc, voilà, François de Sales nous invite à pas nous arrêter en cours de route sur des antipathies peut-être qu'on peut avoir, mais d'aller un peu plus loin. Troisième chose, c'est de veiller à la charité dans les jugements. Je passe assez vite, mais... C'est une bonne pratique d'humilité de ne regarder les actions d'autrui que pour en remarquer les vertus et jamais les imperfections. Car puisque nous n'avons point de charge, il ne faut point tourner nos yeux de ce côté-là. Il faut toujours interpréter en la meilleure part qu'il se peut ce que nous voyons faire en notre prochain. Et en des choses douteuses, il faut nous persuader que ce que nous avons perçu n'est point mal, mais que c'est notre imperfection qui nous cause telle pensée. Afin d'éviter les jugements téméraires sur les actions d'autrui, qui est un mal très dangereux et que nous devons souverainement détester. En choses évidemment mauvaises, il nous faut avoir compassion et nous humilier des défauts du prochain, comme des nôtres propres, et prier Dieu pour leur amendement, d'un même cœur que nous ferions pour les nôtres, si nous étions sujets aux mêmes défauts. Voilà, donc il y a toute une gradation aussi, parce qu'il y a des choses, évidemment... Quatrième point, supporter les défauts des autres. Je vous cite encore François de Sales, la grande spécialité de la cordialité est d'excuser le plus possible. Nous désirons du support pour nos misères que nous trouvons toujours dignes d'être tolérées. Celle du prochain nous semble toujours grande et pesante. Il prend l'exemple aussi de Paul et Barnabé qui se sont séparés. Mais bon, finalement, ça arrive aussi chez les saints qu'on se dispute. Donc, cinquième, pratiquer la correction fraternelle. C'est toujours très équilibré, Saint François de Sales. Il dit, ben, vous ne jugez pas, vous... mais en même temps, si vous voyez le mal, vous ne faites pas comme si vous ne l'avez pas vu non plus. Alors, je vous le cite. « Si l'on ne doit jamais dire du mal du prochain, il ne faut pas toutefois favoriser le mal, le flatter ou le couvrir. Mais parler rondement et dire franchement mal du mal et blâmer les choses blâmables quand l'utilité de celui dont on parle le requiert, car en cela Dieu est glorifié. » Donc, il est pour la correction fraternelle. Mais on tâchera de le corriger avec esprit de charité et non avec arrogance et présomption. L'esprit de douceur, c'est le vrai esprit de Dieu. Et
il y avait un livre sur les maximes de moines, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, et un moine qui dit qu'il ne doit pas les déchirer les autres parce que derrière lui, il y a un moulin derrière qui déverse les siens propres. C'est-à-dire alors... qu'il est, comme il a laissé à regarder, il n'y a pas ceux des autres. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai.
Alors, de fait, bon, on va y venir au point suivant. Donc l'esprit de douceur, c'est le vrai esprit de Dieu, et partant, croyez-moi, l'on peut faire entendre la vérité et faire les remontrances, mais tout doucement. Faites toujours vos corrections avec le cœur et reprenant les défauts, faites en vos cœurs que vous excusiez la défaillante, amoindrissant la faute. Car ainsi les avertissements sont meilleurs et font meilleur effet. Lorsque l'on est contraint, pour quelque bien, de remontrer le tort du prochain, il ne faut justement dire que ce qui est requis pour la faire présente et taire le reste tant qu'il est possible. Donc, à brebis tendues, Dieu mesure le vent. Donc, bon, il faut y aller à mesure aussi que la personne peut entendre. Donc, ça, c'est tout un art, mais voilà. Donc, ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est se laisser corriger. Alors, ça rejoint un peu ce point-là. Alors, de fait, ça rejoint aussi la fable, ce que vous disiez, du besacier. Hein, la fable du besacier, c'est devant nous, on a les défauts des autres, et dans le dos, on a nos défauts à nous-mêmes. Et l'exercice, c'est d'inverser la besace, d'avoir sous nos yeux nos propres défauts et les défauts des autres dans le dos. Alors, savez-vous ce qu'est le monastère ? C'est l'académie de la correction parfaite, où chaque âme doit apprendre à se laisser traiter, raboter et polir, afin qu'étant bien lissée, elle puisse être jointe, unie et collée plus justement à la volonté de Dieu. C'est le signe évident de la perfection de vouloir être corrigée. Voilà. Et François de Sales est très humain. Vous désirez savoir comment il faut faire pour bien recevoir la correction sans qu'il demeure du sentiment ou de la sécheresse de cœur ? D'empêcher que le sentiment de colère ne s'émeuve en nous et que le sang ne nous monte au visage, jamais cela ne sera. Ce n'est pas agréable de se faire corriger. Il ne faut pas imaginer que ça sera un plaisir qu'on nous fasse remarquer nos défauts. Bien heureux si nous pouvons avoir cette perfection un quart d'heure avant de mourir. Voilà, donc se laisser corriger. Et dernier point, exercer la douceur. La douceur est la fleur de la charité, laquelle en sa perfection est non seulement patiente, mais douce et débonnaire. Voilà. Voilà, l'amitié, la charité fraternelle chez Saint François de Sales. Donc maintenant, il vous reste la conclusion, il vous reste à mettre en pratique, c'est tout. Il nous reste à mettre en pratique. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah oui. Bien sûr, l'admiration, oui, l'idolâtrie, non. Mais l'admiration, oui, au contraire, c'est ça l'émulation aussi, c'est aussi parce qu'on admire les autres, hein. Sinon il n'y aurait pas d'émulation, et on a envie de faire pareil. Mais ce n'est pas toute la personne, enfin c'est la personne qu'on admire, mais pas chacun de ses comportements. Il y a des choses qu'on peut admirer, il y a des choses bah, peut-être pour peut-être être...
On a cru d'avoir l'admiration et d'avoir conscience que c'est le feu et
Oui, exactement. L'admiration n'empêche pas. N'empêche pas. C'est important de rester un peu lucide. Alors, le mot n'est pas toujours très beau, mais voilà, en tout cas, on sait qu'une personne faillible qui en... On voit bien ce que ça a pu faire aussi dans tous les abus. Une fois qu'on met quelqu'un sur un piédestal, c'est quand même très compliqué. Parce que, ben non, tout le monde a besoin d'aller se confesser en même temps. Il n'y a que la Sainte Vierge qui n'avait pas besoin. Mais du coup, voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra jamais admirer chez... Même si globalement, on admire la personne, mais il y a des petits côtés où les... qu'on a... voilà, qu'on n'est pas obligé de reproduire. Et oui, pas mettre sur un piédestal. Même si on a une admiration. Enfin, il y a quand même une différence entre admirer et mettre sur un piédestal. Exactement, c'est ça. Exactement. 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 Mais ça nous fait du bien d'admirer les autres et ça nous fait du bien de... Au contraire, ça c'est une qualité, plutôt de savoir admirer les autres et de... c'est une qualité vraiment. Mais après, il y a une mesure. C'est pas Dieu et la personne reste avec ses limites. Et nous, on voit qu'une face de la réalité, peut-être. On voit peut-être que la face lumineuse. Oui, peut-être, oui. Oui, de fait. Hein.
Ce que je
voudrais
dire, c'est juste discernement qu'on doit avoir quand une question de corriger quand on a quelqu'un. Parce que je trouve qu'on oscille toujours en fait, notamment entre. Vous allez se dire, en fait, j'ai rien à dire sur ce que fait et ce que dit cette personne, et en même temps, je vois objectivement quelque chose qui me semble être mal. À quel moment le dire, comment le dire, sans être dans la critique ou la.
Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Une première chose, c'est de savoir si ça nous revient à nous de le dire. C'est pas forcément. Alors, il y a la correction fraternelle. Après, dans certains cas, je pense que on peut en référer à l'autorité. Il faut discerner si c'est à nous de dire ou pas. Je pense que c'est très bon la correction fraternelle, mais dans certains cas, c'est peut-être pas à nous de faire la démarche. C'est bon, il y a un discernement à faire. La deuxième chose qui me venait à l'esprit, c'est que la correction fraternelle, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus facile de faire la correction fraternelle si, en règle générale, vous avez une bonne relation avec la personne où vous savez vous lui dites 10 points qui sont bons avant de lui dire le point qui est mauvais. Je vois en communauté, si le jour où vous ouvrez la bouche, c'est simplement pour faire une remarque, c'est de toute façon mal pris. Même si c'est vrai, même si... Si vous avez dit 10 choses positives avant et que, exceptionnellement, vous dites une remarque, la personne sait avant de... Elle sait qu'elle est aimée et appréciée. Donc c'est beaucoup plus facile à accueillir. Et je pense qu'il faut garder aussi cette proportion quelque part. Je pense dans tous les cas, il y a besoin de garder une certaine proportion. Tous, on a envie d'être aimé, je crois. Et du coup, quand on se sait aimé, c'est plus facile. Et quand on aime l'autre, on trouve plus facilement la manière délicate de lui dire.
Donc, par exemple, si on ne trouve pas forcément une relation d'amitié...
Si c'est une question de prudence, je ne dis pas qu'il faut forcément s'en préserver. Quelquefois, si c'est quelqu'un de loin, ça touche aussi moins profondément. Hein. Quand c'est quelqu'un de très proche, ça peut toucher d'autant plus profondément une remarque qu'on peut faire. Donc, si c'est quelqu'un d'un peu plus loin, on peut se permettre de dire. Je pense qu'il vit. Mais c'est une question de prudence, voir un petit peu ce que disait François de Sales était très intéressant. Dans quelle mesure l'autre est capable d'accueillir ? Parce que quelquefois, quand on dit une chose, quand on sent que la personne est complètement bloquée, si on lui dit quelque chose, elle va faire que se bloquer un peu plus. C'est compliqué. Il y a un discernement à faire à chaque fois. J'ai pas de choses. Et de fait, on voit avec certaines personnes qui sont complètement bloquées, on ne sait pas très bien comment faire. Et on voit certains, je pense, j'ai quelques situations, ils ont brûlé des feux rouges, il y a des choses qui ont été dites. Pour des prêtres, ils ont été réduits à l'état laïque. Après, ils auraient pu être excommuniés, ça ne s'est pas fait finalement in extremis. Mais quand la personne est bloquée, elle est bloquée, on ne peut pas l'ouvrir de force. Quand quelqu'un s'est fermé. Après, nous, on peut dire ce qu'on pense être juste, mais c'est... dit d'une autre manière, c'est faire œuvre autant qu'on le peut de pédagogie. Le but, c'est pas simplement de dire quelque chose, c'est de voir qu'est-ce que l'autre peut comprendre. De se positionner comme ça, ça aide. Le but, c'est pas de se décharger, forcément. C'est comment je vais m'y prendre pour qu'il puisse comprendre ce que j'ai envie de lui dire. Et que ça fasse bouger les choses. Je dirais plutôt dans ce sens-là, peut-être.
Pas dans les amitiés obligées, comme dans les liens familiaux, là où ça devient plus compliqué, parce que peut-être que le but, c'est pas... On est obligé, du coup, il faut peut-être préserver les liens vis-à-vis des...
Vous avez raison, quelquefois, on est obligé de préserver le lien, et du coup, on y va moins fort. Je pense qu'on peut dire, il faut dire aussi des choses, mais c'est vrai que c'est important de préserver le lien. Autant que c'est possible, alors là, c'est vraiment une question de prudence, mais de fait, plus on est proche, plus pour des époux, pour des enfants, on essaie de garder le lien avec les enfants, même s'ils font les 400 coups, autant qu'on le peut. Après... Mais ça, c'est pas une science exacte. On fait ce qu'on peut. Et puis, mais bien sûr, on essaie de préserver le lien. Mais après, il y a un bien commun aussi de la famille ou de la communauté dont on doit tenir compte à un certain moment. Et ça, c'est vrai que c'est une question de prudence. Il y a besoin de, à la fois de beaucoup de charité, mais à la fois d'une prudence éclairée. Parce que, et du coup, on a besoin quelquefois de conseils aussi. Quelqu'un qui, si possible, des conseils éclairés. Ce n'est pas toujours... Mais voilà.